Fréquence Mistral a le plaisir de recevoir Benoît Enoch, qui est paysan boulanger à la ferme des Seguins à Valensole, qui est ici pour nous présenter l'événement Ferme en Ferme qui aura lieu ce week-end du 27-28 avril, organisé par le CIVAM. Bonjour Benoît, pouvez-vous nous en dire plus ?
Je viens effectivement de Valensole pour présenter un peu le week-end de Ferme en Ferme qui est organisé par le CIVAM. Le CIVAM, c'est une association à l'échelle nationale qui a aussi des antennes régionales et puis après départementales et qui existe depuis 1950, s'occupe de valoriser tout ce qui est agriculture en milieu rural. Ça veut dire le CIVAM, centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Paysans qui font partie du CIVAM ouvrent leurs fermes pour montrer un peu leurs pratiques agricoles en agroécologie. C'est des petites fermes dans la France entière et c'est toujours le dernier week-end d'avril. Cette année, c'est les 27 et 28 avril. Des ateliers qui sont proposés autour de nos pratiques agricoles, des démonstrations, des dégustations. Et pour certaines fermes, même, il peut y avoir des repas de proposés. Pour certaines, des spectacles le soir.
C'est la 31e édition cette année de l'événement Ferme en Ferme. Mais cette année, il y a une petite nouveauté qui est...
Effectivement, cette année, pour la première fois, il y a le 05 qui se greffe à la région PACA pour proposer l'ouverture de beaucoup de fermes. Je ne sais plus combien il y en a dans le 05, mais il y en a autant que dans le 04.
Une vingtaine dans le 04, une vingtaine dans le 05.
Parler un peu de l'historique du CIVAM. Les CIVAM ont été fondés à peu près dans les années... c'est une association qui a été fondée dans les années 50. Donc depuis 1950, il y a tout un groupe de gens qui s'occupe de promouvoir, enfin, ou en tout cas défendre l'agriculture paysanne. Et c'est complètement apolitique, c'est ça qui peut être intéressant quand même. Et l'essentiel des combats, c'est sur défense de la petite agriculture. Il y a eu tout un volet depuis les années 80 sur la reconnaissance du travail des femmes dans les fermes, qui n'avaient pas de statut précédemment, qui avaient souvent un statut de conjointe collaboratrice au mieux. C'est un combat qui a été mené essentiellement par le CIVAM à cette époque, souvent avant d'autres organisations. Et puis, il y a aussi le volet sur les pratiques agricoles avec des sols couverts, avec de l'agroforesterie. Il y a un technicien au niveau du CIVAM PACA qui s'occupe essentiellement de l'agroforesterie avec des formations pour replanter des arbres, pour créer de la biodiversité dans les champs.
Comment on peut dire que c'est apolitique si on s'engage pour une agriculture respectueuse de l'environnement et si on s'engage pour les droits des femmes ?
Oui, effectivement, non, mais c'est pas droite, gauche, milieu, ça n'appartient pas à d'autres syndicats. En fait, les agriculteurs qui font de l'agriculture proche de la nature, la seule référence, enfin, de mon point de vue, c'est le rapport à la nature.
Et du coup, le point de contact sur le 04, c'est Agribio 04 pour le CIVAM, c'est ça ?
Agribio 04, adhérent du CIVAM, parce qu'il n'y a pas de représentant du CIVAM par département. Le CIVAM PACA et son bureau sont à Cavaillon. Au CIVAM, il y a aussi tout un volet qui est de l'accueil social et pédagogique depuis de nombreuses années dans beaucoup de départements. En région PACA, depuis 2017, on s'est formé à de l'accueil social et pédagogique à la ferme. C'est un projet qui s'appelle Racine, du coup, au sein du CIVAM. Beaucoup d'entre nous qui adhèrent à ce projet Racine interviennent auprès des collèges pour montrer ce que c'est que de l'agriculture durable. Donc, il y a des tas de collègues qui vont dans les collèges, dans les lycées. Effectivement, il y a des visites de fermes. Moi, j'interviens essentiellement sur un volet social, donc j'interviens plus en prison. Je travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse, puis avec des ITEP, avec des gens qui sont porteurs de handicap. Ça, c'est pour Racine, volet pédagogique et social. Et Ferme en Ferme, c'est aussi l'autre gros dossier des CIVAM. On s'adresse à un public qui est très, très hétérogène, avec des familles, etc. Et c'est pour ça qu'on ouvre nos fermes au grand public, en fait. Le volet pédagogique, là, on est en plein dedans. On essaye de montrer comment on travaille l'agriculture aujourd'hui dans des petites fermes vivrières et en agriculture biologique, avec préservation des sols durables, créer de la biodiversité, etc. Quand on travaille avec les collèges ou avec les enfants, les adolescents, etc., on intervient une première fois au sein des établissements et on propose dans un second temps, en général, une visite à la ferme avec des groupes d'enfants qui sont constitués. Ça peut être par classe, ça peut être par groupe de classe. On propose une journée ou une demi-journée. En général, on préfère que ça soit une journée parce qu'il peut y avoir une incidence sur l'alimentation aussi. On propose des repas pour éviter que les enfants ou les gens qui viennent de milieu carcéral, par exemple, exemple, ils arrivent avec leur sandwich de chez Lidl, par exemple. Donc, on préfère proposer l'alimentation qui est issue de nos cultures, ou en tout cas durable, sans emballage. Et c'est ça qu'on explique dans un premier temps quand on intervient. S'il y a des emballages qui soient recyclés, une salade, ça ne pousse pas dans un sac en plastique. Ça peut très bien pousser dans des petites fermes où il y a un potager en plus de l'activité principale.
Vous avez donc une approche en fait totalisante, globalisante de la question environnementale et des activités que vous avez dans votre métier. Est-ce que l'exemplarité est une façon d'aborder votre métier ?
C'est vrai que les gens qui sont investis dans ce genre de projet, ils essayent de montrer l'exemple. L'intérêt, c'est de se calquer aux saisons. C'est-à-dire que si on fait une visite dans une ferme en automne ou en hiver, on aura tendance à faire des plats avec des blettes, par exemple, ou des épinards, et on va pas sortir de la tomate. Moi, je fais des pizzas l'hiver, c'est vrai que c'est des coulis de tomates que j'ai fait l'été, que je propose. C'est éventuellement des conserves. Si j'ai pas, eh ben, j'achète des produits biologiques et j'achète de la sauce tomate pour faire mes pizzas, mais j'irai pas au-delà, quoi. Par exemple, c'est de calquer vraiment les saisons par rapport à notre activité et montrer effectivement que tout ce qu'il y a dans les supermarchés, c'est pas forcément en rapport avec les saisons. Tout un programme sur l'alimentation, avec histoire de goûter à l'école, par exemple, c'est voilà, une pomme lors du goûter.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des marges de progression, vous ? Parce qu'on dirait que toutes les actions sont déjà pensées de fond en comble pour être extrêmement respectueuses de la production à la poubelle, en passant par l'alimentation.
Pour nous ?
Oui.
Ou pour le public ?
Pour vous et pour ce que vous proposez au public.
Oui, on essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de progresser. Après, il y a des histoires de climat, de météo, d'arrosage, qui fait que le métier d'agriculteur aujourd'hui en petite agriculture, ça devient de plus en plus compliqué. Économiquement, c'est pratiquement plus viable, parce qu'on est en train de casser les filières du bio. Ça, c'est des histoires politiques, hein. Moi, je suis paysan boulanger, par exemple. Le cours du blé n'a jamais été aussi bas en agriculture biologique que cette année. Le cours du blé est inférieur en agriculture biologique au cours du blé en agriculture conventionnelle. C'est pratiquement moitié moins. Parce qu'on nous fait croire que le blé il vient d'Ukraine et qu'il y a pénurie de blé et donc ça casse les filières. Et puis il y a de moins en moins d'agriculteurs qui sont convaincus par l'agriculture biologique parce que ça devient de plus en plus répandu. Aujourd'hui, quand on ouvre nos fermes, c'est pour montrer ce qu'est une agriculture biologique paysanne. Et une agriculture biologique paysanne, ça n'a rien à voir avec des grandes cultures qui ont le label biologique, mais où il n'y a aucune biodiversité. Je connais des confrères qui ont jusqu'à 1000 hectares en agriculture biologique. Là, les fermes du CIVAM qui proposent le week-end de ferme en ferme, c'est des toutes petites structures. Quand c'est des grandes cultures, enfin moi j'ai 30 hectares de culture parce que je suis en grande culture céréales, c'est déjà beaucoup pour une petite ferme.
Ces discours sont plus que d'actualité avec, on le rappelle, donc, il y a la gronde des agriculteurs. Les agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes que j'ai pu interviewer lors des mobilisations ont été assez critiques face à la PAC qui favorise plutôt les grandes cultures, pas le biologique. Comment être viable aujourd'hui tout en respectant l'environnement ?
Moi, je ne crois pas du tout à la politique agricole commune. Ce que je touche à la PAC par an, c'est, je crois que c'est 4 500 €. Crédit d'impôt parce que je suis en agriculture biologique. Absolument pas vivrier en rapport avec le prix du gasoil qui a augmenté. On est obligé de travailler avec un tracteur puisqu'on met zéro intrant. Et donc on a des outils qui sont très excessifs en accessibilité.
En pour faire des
passer plusieurs fois par exemple la RC-tree pour enlever les herbes avant la montaison des céréales par exemple. Sur la saison, il faut passer 4 fois. Donc 4 fois, ça nécessite du gasoil pour le tracteur. Le tracteur, il faut qu'il soit à peu près dimensionné par rapport aux cultures. Donc ça consomme quand même pas mal d'énergie. Le coût de la céréale à la tonne en agriculture biologique, si on arrive à la vendre autour de 300 € tonne, il y a un problème parce que c'est pas du tout rentable du coup de le faire comme ça. Pour moi, c'est une histoire de conviction. Et le monde de demain en agriculture biologique serait du collectif, créer des collectifs paysans.
Et donc du coup, c'était internaliser les compétences et mutualiser. Et pour vous, en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, c'est la solidarité et la mutualisation, j'imagine. Quand vous dites qu'il faudrait des collectifs.
Oui, c'est la mutualisation. Après, il y a les histoires de CUMA qui existent depuis très longtemps. Le problème de la CUMA, c'est que on a besoin de tous du même outil au même moment. Par exemple, les moissons, tout le monde a besoin de moissonner à peu près au même moment, et si on n'a qu'une moissonneuse pour 20 agriculteurs, ça pose un problème. Après, il y a des systèmes qui sont des systèmes plus alternatifs, avec de la cohabitation, des habitats groupés, de l'habitat léger, de la toute petite agriculture, des ateliers de transformation. Je ne vois pas comment ça peut être autrement sur de la petite agriculture, puisque de toute façon, le coût des machines est exorbitant, enfin le coût du travail agricole est devenu exorbitant et qu'il n'est pas en relation avec le peu de primes qu'on peut toucher, quoi. L'intelligence du truc, c'est de cultiver et à la fois de transformer, d'avoir une transformation derrière. Si c'est des petits fruits, faire de la confiture, ou j'ai un copain là qui fait partie du CIVAM qui fait des petits fruits et qui fait des glaces, voilà. Mais c'est énormément de travail. Donc après, il se pose la dimension sociale. Comment on fait socialement pour pouvoir intégrer des gens, pour pouvoir salarier des gens? Ils sont aussi dans un système de travail où il faut respecter le temps de travail de chacun. C'est 35 heures par semaine. Alors, en 35 heures par semaine en agriculture, quelquefois, on ne fait pas grand-chose. Si on veut bien travailler ses terres, ça prend énormément de temps, quoi.
L'agriculture est un travail qui ne s'arrête jamais. Week-end aussi, il faut arroser, il faut, quand on a des bêtes, il faut s'en occuper. On ne peut pas faire le pont du 1er mai lorsqu'on est agriculteur, agricultrice, j'imagine. Donc le fait de faire de la culture, puis de la transformation, bon, d'une part, ça rajoute du temps de travail. Et d'autre part, en fait, c'est de monter en compétences, de la transformation. Il faut s'équiper également s'il faut des cuisines. Ça crée pour le producteur de la valeur ajoutée. Mais en face, peut-être que les consommateurs, consommatrices aujourd'hui, s'ils se dirigent vers les grandes surfaces aussi, il y a une question d'éducation, mais aussi une question de moyens. Une confiture faite maison, une pizza faite maison, et c'est normal, ça coûte bien plus cher qu'une pizza reconstituée en amidon, par exemple.
Tout à fait, oui. Et c'est pour ça qu'on intervient, comme moi, quand j'interviens en prison, après je reçois les détenus à chaque fois à la ferme et je fais un atelier autour du pain et on déjeune ensemble, je leur fais toujours un repas, c'est souvent la pizza. On dissèque la pizza en expliquant quelle valeur peut avoir sur cette pizza sur le marché par rapport à une autre. Il y a des gens qui disent zéro, et il y en a d'autres qui disent que ça peut valoir jusqu'à, en valeur de travail, ça peut valoir jusqu'à 50-60 euros. Si on fait le coulis de tomate avec une tomate qu'on a semée à l'origine, on part de la graine, qu'on transforme en coulis, c'est, en temps de travail, c'est énorme. Et pareil pour le fromage. Moi, j'ai commencé en faisant j'avais deux vaches et je voulais faire du fromage pour mettre sur les pizzas. J'avais un troupeau de chèvres, je voulais mettre du fromage de chèvre sur les pizzas. Et en fait, là, c'est plus possible parce que c'est en valorisation de produits, on s'y retrouve pas. Moi, j'ai trouvé la solution avec le pain. La céréale est en bio et a une rentabilité qui est très faible. Donc, du coup, j'ai trouvé le biais de faire du pain. Mais le pain, comme je le fais moi avec un four à bois avec des poussées lentes, ça prend trois fois plus de temps que dans une boulangerie où il y a des chambres de pousse, des machines pour découper le pain, pour le façonner, etc. Donc on a un problème sur le temps de travail. On s'y retrouve parce qu'on a une rentabilité du fait qu'on, à peu près, parce qu'on compte pas notre temps de travail, mais c'est la seule solution.
Donc par rapport à ces questions d'agriculture biologique paysanne, on voit aujourd'hui que c'est difficile d'être rentable. Vous en témoignez avec vos collègues et la gronde paysanne continue de monter. Pourquoi continuer à fonctionner dans ce modèle et pas se plier aux exigences de la PAC, par exemple ?
Parce que c'est la seule solution en fait, pour préserver la nature, créer de la biodiversité, créer des sols qui travaillent sur des sols qui sont complètement couverts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de labour. Quand il pleut, l'eau pénètre dans le sol et c'est des sols qui pourront absorber l'eau et donc qui pourront aller dans les nappes phréatiques et sans produit de désherbant, il n'y aura pas de problème d'eau. L'eau qu'on pourra réutiliser sera naturelle, pure et voilà, et minérale.
C'est vrai que même s'il pleut, en fait, si les sols aujourd'hui sont trop pauvres et trop abîmés, ils ne peuvent plus absorber l'eau. Du coup, ça donne des inondations. Les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Concrètement, c'est ça. Ouais. Les problèmes. Puis la bétonisation des villes, bon, dans le 04, ce n'est pas le problème le plus criant, on va dire. Si vous continuez aujourd'hui de faire ce métier qu'on sait compliqué sur plein de points de vue au niveau de temps de travail, des revenus et de toutes les contraintes, si j'imagine une question de valeur, de conviction.
C'est pour proposer un monde pour nos enfants, enfin, ou les enfants des autres, peu importe, mais pour les générations futures. Quand on voit aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui sont adolescents, pour leur bien à eux, pour l'instant ils sont pas du tout là-dedans parce qu'ils sont souvent, les jeunes, ils sont absorbés par la société de consommation, c'est malheureux mais c'est comme ça. Avec un téléphone portable aujourd'hui, c'est pour essayer de faire une opposition à cette consommation. Moi j'ai reçu par exemple un groupe d'éclaireurs, parents m'ont dit « Ah mais ils sont en totale autonomie, t'inquiète pas », et c'est un week-end qui est prononcé autonome, c'était des ados de 13 ans. Les parents les ont emmenés au supermarché avant qu'ils viennent à la maison et ils sont arrivés avec des salades dans des sacs en plastique, des Big Mac qui se faisaient eux-mêmes, mais c'est déjà mieux que d'amener les Big Mac. N'empêche qu'ils auraient pu peut-être avant, ou on aurait pu faire un travail plus en profondeur. Moi j'avais des salades sous la serre, j'aurais pu très bien leur proposer au moins la salade. Mais voilà, c'est une dimension qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde.
Les barrières ou les arguments qui sont exposés contre les réticences, comment... Donc il y a le fait d'ouvrir sa ferme, le fait de faire des ateliers, le fait de recevoir des publics mixtes.
Le barrage, s'il y a des gens qui viennent dans nos fermes et qui nous disent « moi j'ai pas les moyens de manger comme ça », on peut leur expliquer comment faire pour progresser par rapport à ça. Moi si j'ai un client qui vient et qui me dit « j'ai pas de sous sur le marché, ton pain il est deux fois trop cher, donc je peux te donner la moitié », je le fais bien volontiers. Après si c'est tous les dimanches et que j'ai plus que cette clientèle là, ça va être compliqué, encore plus compliqué pour moi économiquement, mais on peut peut-être trouver d'autres systèmes pour essayer de fonctionner peut-être sur l'échange. Moi j'ai besoin souvent d'aide sur des trucs ponctuels, j'ai fait beaucoup de woofing, mais j'aimerais bien plutôt montrer aux gens la complexité de nos systèmes dans des petites fermes. De temps en temps, dans un autre domaine, quand on fait une soirée spectacle, par exemple, qui participent, qui viennent, et en échange, ils peuvent repartir avec du pain. Alors, d'avoir un poulailler, ce qui est mon cas, et d'essayer d'avoir une rentabilité sur de l'œuf, c'est impossible. Ça coûte moins cher d'acheter une boîte d'œufs à la Biocoop que d'avoir un poulailler et de donner du grain soi-même à ses poules avec le travail que ça.
Votre exploitation, elle est très intéressante parce que si vous surtout de la céréale, si j'ai bien compris, vous transformez, vous faites du pain, vous avez donc un four à pain, vous avez d'autres activités qui sont, donc vous faites de l'accueil en gîte, et vous avez enfin une association qui reçoit des spectacles, si je ne me trompe pas.
Pour moi, tout ça, c'est la même chose. La culture, l'agriculture, un petit C, un grand C, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes problématiques par rapport au travail, il y a les mêmes problématiques par rapport au système économique. Moi, je fréquente souvent des intermittents du spectacle qui ont des difficultés à faire tous leurs heures pour pouvoir avoir un chômage quand ils sont en travail de réflexion, d'atelier, etc. Et bien, nous, c'est pareil. Quand on n'a pas une agriculture qui nous rapporte peu ou pas les problèmes climatiques, et bien, on est obligé de faire avec. Donc, pour moi, ça, c'est la même chose. Donc, pourquoi pas le lier? Pourquoi pas imaginer de faire des propositions qui sont très diversifiées avec de la culture, de l'agriculture? Pour moi, la culture, c'est aussi de faire une soupe et de regarder un film ensemble à un groupe de gens, avoir une réflexion, faire un café hebdomadaire, ce qu'on est en train de mettre en place sur la ferme. On peut simplement échanger sur nos valeurs, sur les valeurs des autres. Peu importe. Moi, tout. La porte de la ferme des Seguins est ouverte à tout le monde. C'est bucolique, c'est une association qu'on a montée il y a 15 ans où on faisait un peu de cinéma itinérant avec des repas dans des fermes, dans des lieux insolites. C'était pour montrer des films à des gens qui sont adhérents de l'association et pour pouvoir avoir un débat autour avec un repas qui était proposé. J'étais chevrier avant de faire du pain, donc on faisait du fromage de chèvre. Après, on s'est mis à faire du pain parce qu'on trouvait que le pain et le fromage, ça allait bien ensemble. Et il y a maintenant 10 ans de l'élevage en chèvre et de faire du fromage de chèvre, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la place et que je me suis un peu spécialisé dans le pain. Et là, du coup, la bergerie, je l'ai transformée en salle de spectacle. C'était mon projet de départ. Moi, je pensais pas être agriculteur un jour. En fait, je suis arrivé dans cet lieu que j'ai acheté. J'ai mis du temps à m'installer. J'étais plutôt dans je faisais un peu de spectacle. J'ai monté un carnaval à Valensole, etc. Enfin bon, je vais pas parler que de moi.
L'agriculture n'est pas rentable. Comment on poursuit? Comment on s'en sort?
Donc, l'agriculture n'est pas rentable. En tout cas, j'ai arrêté le métier de chevrier. Je me suis concentré sur le pain. Au début, j'ai eu du mal à faire du pain parce que je savais pas comment on faisait. Moi, j'ai jamais été à l'école pour les choses que j'ai pu entreprendre en agriculture parce que j'étais déjà considéré comme trop vieux. J'étais plus jeune agriculteur, donc j'avais aucun avantage à faire une formation BPREA parce que ça me prenait du temps. J'avais besoin de vite en faire mon métier, quoi. Et là-dessus, j'ai transformé bergerie en salle de spectacle et ma maison, je l'ai transformée en gîte. pour faire de l'accueil paysan. Je suis aussi plus du CIVAM, moi je fais partie de deux associations. Je suis membre du CIVAM pour Ferme en Ferme, pour Racine, et je suis aussi membre d'Accueil Paysan, qui est une association qui propose de l'accueil touristique et aussi de l'accueil pédagogique et social à la ferme. J'ai décliné ça aussi avec, j'ai libéré deux gîtes où les gens viennent en vacances. Et le reste de l'année, je propose ça en accueil social, je propose ça pour des gens qui veulent venir en séjour de rupture, pour la protection judiciaire de la jeunesse, ou les ITEP. Il faut savoir que le tourisme ici, je ne suis pas très très bon en réseaux sociaux, donc j'ai du mal à me faire connaître, et ça marche très bien juillet-août, parce qu'on est sur le plateau de Valensole et que c'est quand même très demandé, mais le reste de l'année, j'ai personne. Je n'ai pas de lisibilité, parce que je ne veux pas être sur Airbnb, je ne veux pas être sur Booking, et puis je n'ai pas que ça comme métier à faire, donc tant qu'on est pas un collectif qui est en train de se mettre en place. Quand on sera plusieurs à bosser sur la ferme, ça sera différent. Là, pour l'instant, j'ai une salariée sur le pain.
J'espérais avoir plus de salariés à terme, développer l'activité fermière ou pour touristique.
Le tourisme, ça m'intéresse quand c'est de l'accueil paysan et que c'est des familles qui viennent avec des enfants pour se reposer, pour découvrir les activités qu'on fait, ça m'intéresse particulièrement. Ou quand c'est des gens qui viennent pour aussi des ateliers. J'ai fait des séjours de rupture avec des adolescents qui devaient sortir de leur contexte foyer, etc. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Après, c'est un boulot à part entière, parce que c'est 24 heures sur 24, il faut s'occuper du jeune qui regarde le sol en arrivant et qui est incapable de voir l'horizon. Notre boulot, c'est justement de lui montrer qu'il y a une profondeur de champ qui est autre que son portable, ou quand il en a un, parce que quelquefois, ils n'ont pas le droit d'avoir leur portable, ou le sol, quoi. On est dans des fermes où les paysages sont magnifiques, il y a une profondeur de champ qui est invraisemblable. Moi, j'ai la vue sur le Mont Denier, sur le Chiran. Il y a une biodiversité qui est assez extraordinaire. Aujourd'hui, le métier de paysan, quand on l'explique, c'est aussi expliquer la lecture du paysage. Paysan, c'est paysage.
L'approche que vous avez est extrêmement organique et totalisante, et cohérente, d'une cohérence. Parce que pour l'anecdote sur votre site internet, dans la location des gîtes, vous écrivez bien utilisation de savon biologique parce que l'eau est filtrée par des plantes. C'est des roseaux ou non ?
Oui, c'est un bassin d'épuration de lagunage que j'ai monté avec une association. Ça, c'est encore une anecdote. J'ai monté ça avec une association qui s'appelait Eau Vivante à l'époque, il y a 15 ans. Première visite du SPANC, c'est les gens qui vérifient au sein de la commune ou de la communauté de communes si les choses sont aux normes. Le premier visiteur que j'ai eu, le premier technicien, il ne savait pas ce que c'était qu'une épuration naturelle. Et puis, il s'est renseigné. Et 5 ans après, lors de la visite de contrôle qui a lieu tous les 5 ans, il m'a dit « Mais monsieur, vous n'êtes plus aux normes, il faut faire un bassin dimensionné de 4 mètres sur 6 parce que vous avez 9 unités d'habitation. » Et donc, on est rentré dans un protocole où il a fallu que je transforme les choses. Et c'est un investissement qui est énorme, juste pour de l'épuration d'eau usée où il n'y a que des produits biologiques qui rentrent dedans, puisque les toilettes, c'est des toilettes sèches. Donc, il n'y a même pas les produits pour faire la vaisselle. Chez nous, c'est que des produits bio, où il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Mais pour ça, il faut faire un bassin de 4 mètres sur 6, suivre la réglementation, faire appel à un bureau d'études. Et le coût d'une structure comme ça, c'est 15 000 euros pour un bassin pour des eaux usées, qui sont propres, qu'on pourrait se resservir presque pour arroser, mais aussi pour presque, avec un bon filtre, boire du pastis, mettre dans l'eau du pastis.
Vous dites que vous avez fait ce bassin de filtrage il y a une quinzaine d'années et que les organismes de contrôle ne connaissaient pas. Comment vous êtes arrivé si tôt aux questions écologiques, biologiques? On n'en parlait pas tant il y a 15-20 ans aussi.
Alors moi, je suis arrivé en 2000 dans le 04, je venais de la ville. Puis 2000, je suis là, j'ai pratiquement pas bougé. Et en fait, je savais pas ce que c'était qu'en 2000, l'agriculture biologique. Et je suis arrivé, j'ai loué une maison d'abord du côté de Fort-Calquier. Et quand j'invitais les gens du coin que je connaissais pas, parlaient du bio, je leur dis oui, je sais ce que c'est que le bio. Et ils m'ont dit, alors tu nous le prouves. Enfin, je me rappelle de ce groupe de copains. Et j'ai ouvert mon frigidaire et je leur dis, regardez, il y a des yaourts bifidus Danone. Et ils se sont foutus de ma gueule. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer en fait d'état d'esprit, comprendre ce que c'est que l'agriculture biologique. Et je construis cette maison que j'ai achetée en ruine pendant 10 ans. Ça. J'y avais un peu d'élevage, des poules et quelques chèvres au début. Et là, je me suis concentré là-dessus et ça me passionne. Je me rattache à ça sur cette planète. L'agriculture biologique me passionne.
Et du coup, vous avez vraiment appris ça par expérience et par des personnes que vous avez rencontrées, donc pas de formation. Enfin, autodidacte, vous avez lu, vous avez... Enfin, comment...
Ouais, voilà, j'ai pas mal lu. Après, à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais sur un voilier et j'ai un copain qui m'a dit « Tu devrais lire ça ». Il m'a filé le bouquin de Paroles de Terre de Pierre Rabhi. Dévoré ça, je lisais pas beaucoup à l'époque. Et j'ai dévoré ce petit bouquin qui est vraiment super sur le rapport entre un occidental et un chef de village en Afrique. Il parle des produits chimiques, des semences, etc. Enfin, très bien romancé.
Il faut lire des Scola, absolument, alors, si c'est pas déjà fait.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose qui m'ont fait penser comme ça, mais en tout cas, ça m'a tout de suite pris au trip, quoi. Après, Pierre, j'ai fait une conférence à Lagon avec lui. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis allé voir ses jardins. Je me suis imprégné de choses comme ça. C'est complètement empirique. Après, j'ai rencontré des gens du coin qui étaient en ferme vivrière, qui m'ont appris le métier de chevrier, à élever le cochon, à tuer le cochon, à le transformer, etc. Et c'est tout un univers qui est passionnant. C'est tout un système, en fait. Quand on a des chèvres, on a du petit lait, donc avec le petit lait, on peut nourrir un cochon et on peut se faire sa propre charcuterie.
Du manque de moyens aujourd'hui pour s'alimenter, il y a le fait que déjà le panier moyen des Français occupe, avant de mémoire, il y a une cinquantaine d'années, c'était 50% des ressources du foyer étaient dédiées à l'alimentation. Et aujourd'hui, avec les supermarchés, c'est descendu à quelque chose comme 30%, il me semble.
Peut-être mais moins, ouais. Peut-être
même,
moins.
Même peut-être. C'est des chiffres qui datent de 4-5 ans, il me semble. Une des choses qui peut être prônée, ça peut être réduire sa consommation... Justement, en viande et en poisson, ça ne doit pas être à tous les repas.
Alors là, vous branchez sur un truc qui m'intéresse particulièrement. Quand je dis collectif, je dis, je pense installer des gens. Pour l'instant, je suis mal barré parce que je n'ai pas énormément de surface. Pour moi, le système de demain, c'est le système d'hier, c'est-à-dire polyculture-élevage. Qu'est-ce qu'on fait des bêtes qu'on élève? Si on ne les mange plus, on peut très bien faire un zoo et des fermes pédagogiques. Même si on fait du fromage, il va falloir, à un moment, tuer des animaux pour les manger. Parce que faire du fromage, ça nécessite des naissances. Après, il y a des systèmes qui sont particulièrement intéressants. En chèvre, justement, dans le cas de ferme en ferme, il y a Lorraine qui ouvre sa ferme, qui fait de l'élevage avec une lactation longue. C'est-à-dire qu'elle élève les chèvres sur 5 ans. Elle ne fait pas reproduire les chèvres pendant 4 ou 5 ans. Enfin, je ne sais pas exactement quel est son système. Mais ça, c'est des systèmes qui sont très intéressants parce qu'il y a beaucoup moins de naissances. Donc, il y a beaucoup moins de mortalité d'animaux. Il y a beaucoup moins d'abattage d'animaux. Et en plus, l'animal se vit pratiquement deux fois plus de temps parce que le fait d'avoir un chevreau tous les ans, ça fatigue énormément l'animal. C'est des systèmes qui sont particulièrement intéressants à découvrir. Et là, on en revient à ferme en ferme.
On en revient à ferme. Donc ça, c'est la ferme des Mours de Lorraine Prunet, c'est ça?
Oui, voilà. La ferme en dessous des Mours.
Pour en revenir à ferme en ferme, voilà, est-ce que vous voulez présenter un petit peu les fermes qu'on pourra visiter ce week-end?
Ben, j'en connais quelques-unes. Il y a la ferme de Tater, ça c'est on reste dans les chèvres. C'est les gens qui m'ont appris à être chevrier un jour. Ils ont deux troupeaux, brebis et chèvres. Ils ont une ferme qui est complètement vivrière avec les terres qui vont avec. Ils font leur fourrage, ils font leurs céréales pour les bêtes. Ça peut être un exemple de ferme à visiter, mais dans les cultures, il y a sur le plateau de Valensol, donc c'est un voisin à moi, c'est la ferme de Vauvenière, c'est des gens qui font des plantes à parfum essentiellement, qui font un peu de céréales, qui commencent à faire du pain, je crois. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais ils font du fourrage. Dans les champs de lavande, il y a des bandes enherbées, c'est-à-dire que les terres ne sont pas travailler entre les champs de lavande. Il y a des engrais verts dans les champs de lavande. C'est quand même... c'est super novateur. Et c'est à la fois ce qui existait avant. La lavande, elle se récoltait en montagne et il y avait de l'herbe autour de la lavande. C'est une aberration de griffonner entre les rangs de lavande.
Et comment on fait pour les photos Instagram?
Ben, les photos Instagram, on peut prendre simplement la lavande ou on peut prendre aussi toutes les fleurs qu'il y a au milieu des rangs. Parce qu'il y a des engrais verts. Qui dit engrais vert, il y a forcément des fleurs. Il faut venir à la bonne époque. Quand tout est en fleurs, c'est pratiquement maintenant. Le programme de ferme en ferme, il se décline en plusieurs secteurs sur le 04. Il y a entre Durance et Verdon, dont je fais partie, donc le bateau de Valensole, etc. Il y a entre Lure et Durance, donc c'est plus du côté de Manosque. Il y a donc Fort Calquier, il y a Pierre Rhume, tout ça c'est à peu près le même secteur. Après, il y a ça, la vallée des Duys. Donc, c'est plus du côté de Thouars, Barras, Mirabeau, notamment Guylaine Chéron, qui fait du safran et qui vit partiellement de sa culture de safran. Elle a fait des jardins en terrasse avec des cultures de safran. Elle fait aussi des fruits, un peu d'huile d'olive. Ça, c'est des fermes qui sont toute petite, à dimension humaine, et l'aspect de la nature, là, c'est étonnant. Ils plantent des arbres. Pour les autres, je les connais moins, parce que c'est moins mon secteur, mais il y a aussi le secteur de la Robine, il y a les canards de la Robine. Puis le dernier territoire pour le 04, c'est Terre de Provence, avec Châteaufort, Nibles et la Motte du Caire. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur vous tapez Ferme en Ferme sur Internet.
www.defermeenferme.com pour retrouver toutes les animations de ce week-end dans le cadre des portes ouvertes des fermes membres du CIVAM, qui promeut une association qui promeut l'agriculture paysanne et les milieux ruraux. Les paysans et paysannes ouvrent les portes et proposent des animations, des repas tout au long du week-end du 27-28 avril.
Il y a une carte avec les numéros des fermes. Vous savez s'ils sont en agriculture biologique ou pas, mais apparemment tout le monde est en bio ou pratiquement. Vous savez ce qu'ils peuvent proposer, des confitures, il y a de l'élevage d'ânes, il y a du porc, il y a du fromage, il y a du pain pour moi. Ça, sur le 04 et le 05, ça, si vous consacrez votre week-end à ça, ça peut faire vraiment de belles balades.
Vous allez bien manger.
Alors, donc, les fermes seront aussi repérables par des panneaux jaunes où il y aura marqué « De ferme en ferme ». Vous aurez le numéro de la ferme dans laquelle vous allez sur le panneau, si vous êtes sur la bonne route, ce que j'espère. Mais sinon, on est tous géolocalisés. On essaye de bosser un peu là-dessus. Quand vous tapez, par exemple, la ferme des Seguins, pour moi. Sinon, à l'entrée des fermes, vous avez aussi « De ferme en ferme ». Ça existe depuis 1993. C'est né dans la Drôme. Chaque événement, il y a toujours un épouvantail à l'entrée des fermes. Donc, à nous de construire chacun un épouvantail un peu rigolo. Sur la ferme des Seguins, donc il y aura un atelier peint toute la journée du samedi et peut-être un peu du dimanche, mais c'est vrai que le dimanche on va peut-être se concentrer sur autre chose. Donc il y aura des choses à déguster, pain, pizza, etc. Vous pourrez boire un verre. La bière qui sera servie, c'est la bière du réseau Racine, qui est fabriquée par un copain qui fait partie du réseau, qui est maraîcher et qui destine sa production de petites épeautes à faire de la bière qu'on revend au sein du CIVAM pour que les bénéfices aillent pour payer les bus qui emmènent les enfants pour les séjours scolaires dans nos fermes. On s'est aperçu que notre accueil coûte pas très cher à la journée pour les scolaires. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est le coût du bus. Donc on a trouvé une solution à Nicolas Borde, qui est dans le Vaucluse, à Pernay-Fontaine, fabrique cette bière pour que les bénéfices aillent pour payer les bus. Ça, c'est extrêmement intelligent. Cette bière, elle sera proposée sur ma ferme et d'autres du réseau, je sais plus. Nous, à la ferme des Seguins, on propose une soirée concert, pizza. On aimerait bien que les gens réservent un peu. L'idéal, c'est de réserver par SMS pour moi, parce que les réseaux sociaux, je suis vraiment pas bon. Mon numéro, c'est 06 43 40 53 37. Et sinon, vous me trouvez aussi sur le net. Vous pouvez retrouver mon numéro, je pense, sur le net. Ferme les Seguins. Et soirée concert, c'est un groupe qui n'a pas été choisi par hasard. Il s'appelle Watermill, ça veut dire moulin à eau. Et c'est les gens du moulin de Saint-Joseph à Grance. Ils répètent depuis 40 ans au sein du moulin. Il y a tout un explicatif sur leur façon d'aborder le rock. Et je trouve que c'était plutôt marrant de faire venir Philippe et ses collègues. La ferme que moulin à eau, ça correspond au pain, il me fait une partie de ma farine. Et voilà, je pense qu'on va passer une excellente soirée. C'est des rockers entre, je crois que le plus jeune, il doit avoir 62 ans et plus. Pouvoir même danser.
Vous êtes aujourd'hui à Fréquence Mistral pour le CIVAM, donc les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, pour nous parler de ce 27 et 28 avril, ce week-end, où il y aura l'événement phare de l'association, qui est de ferme en ferme. Je vous laisse en quelques mots nous présenter cette 31e édition nationale, 10e pour les Alpes de Haute-Provence, avec pour thématique arbres et biodiversité.
31 années, c'est pas rien. Pour la première fois, il y a une thématique qui est arbres et biodiversité. Il faut savoir que les CIVAM, ils ont toujours défendu la biodiversité sur la plantation de haies, notamment, il y a tout un programme là-dessus. Là, au sein de réunions de préparation, on s'est aperçu, enfin, je pense qu'on le savait déjà, mais entre 2017 et 2021, il y a eu 100 000 kilomètres de haies qui ont disparu. C'est pour ça que cette thématique, elle est très intéressante. Je pense que vous allez pouvoir voir dans les fermes que souvent, il y a des arbres qui ont été plantés ou en tout cas, il y a une préservation de la biodiversité. C'est ça qui est mis en avant cette année pour ferme en ferme. Il y a un truc qui pourrait être intéressant à regarder. Vous regardez sur, je crois que c'est Géoportail, et on a toutes les photos aériennes de 1960. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'était extrêmement bien fait. Les haies entouraient les champs, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour faire des haies naturelles, des barrières naturelles pour les animaux. Ils étaient parqués autour de haies. Et dans ces haies, ils poussaient des fruits, des pommes, des fleurs, des arbres qui amenaient de la biodiversité, qui amenaient souvent de l'azote au sol, etc. Et c'est des systèmes qu'on est en train de recréer avec des associations comme le CIVAM. Il y en a d'autres, Agribio, Confédération Paysanne, Arbres et Paysages, FNE, voilà.
Le rendez-vous, l'invitation pour venir chez vous, dans votre ferme, pour les portes ouvertes.
Pour venir spécifiquement chez moi, vous tapez lesseguin.fr, ça c'est pour nous retrouver sur le site d'Accueil Paysan, qui est l'association nationale, sur le site du CIVAM et sur les plaquettes de ferme en ferme, sur le plateau de Valensole. Et après, j'ai des voisins qui font ferme en ferme, donc ça peut faire partie de votre parcours de passer chez nous.
Vous retrouvez tous les circuits de ferme en ferme pour ce week-end sur www.defermeenferme.com.
Et je reprécise le téléphone 06 43 40 53 37. Par SMS de préférence, s'il vous plaît, parce que si je décroche pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis occupé à autre chose.